18h30 à Paris, l'heure de retrouver le débat avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique. Merci à vous, on va parler de l'Afrique et du climat ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car comme à chaque mois de novembre, la grand-messe pour le climat fait son retour, la COP29. C'est ouverte ce lundi, elle se déroule à Bakou en Azerbaïdjan. Et l'enjeu principal cette année, alors c'est l'un des grands enjeux de la lutte contre le réchauffement de la planète, à savoir quel montant l'aide des pays développés pour les pays en développement. D'où, dans ce contexte, notre question ce soir, est-ce que l'Afrique peut s'adapter au changement climatique? Le continent qui est considéré comme en première ligne face aux effets du réchauffement, mais qui peine à l'affronter, faute de financement. Est-ce que l'Afrique est condamnée à en subir les conséquences? Que faire pour les éviter? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités ce soir en ligne avec nous, Aïda Diong-Niang, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes climatologue, directrice de la météorologie à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, vice-présidente du groupe de travail 1 au GIEC, les experts pour le climat. Benjamin Sultan, bonsoir.
Bonsoir.
Notre deuxième invité en ligne avec nous, climatologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et auteur et contributeur du 6e rapport du GIEC, spécialiste de l'Afrique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Je vais commencer avec vous, Benjamin Sultan, parce que je disais que l'Afrique était considérée comme en première ligne face au changement climatique. Est-ce que, effectivement, c'est le continent qui subit les conséquences les plus importantes du changement climatique? Et comment ces conséquences se manifestent-elles aujourd'hui en Afrique?
L'Afrique, c'est vrai que c'est un continent emblématique par rapport au réchauffement climatique, parce que d'abord, elle a très peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre. C'est moins de 7% des émissions nettes historiques depuis l'époque pré-industrielle. Et puis, c'est aussi donc peut-être le continent le moins résilient en fait au changement climatique. D'abord, pour des questions de vulnérabilité, donc un continent qui est très dépendant aux ressources, ressources en eau, ressources à la production agricole, qui est aussi peu préparé en fait, avec peu de moyens pour s'adapter aux aléas climatiques, et puis un continent qui est aussi sous tension, avec une population qui augmente rapidement, des taux de pauvreté qui sont plus élevés qu'ailleurs. Et je pense que c'est donc ce qui fait que tous les aléas climatiques qu'on retrouve partout ailleurs dans le monde, en réalité, deviennent souvent des catastrophes humaines ou socio-économiques plus importantes en Afrique qu'ailleurs.
Aïda Diong-Diang, vous êtes d'accord? L'Afrique est finalement la moins armée aujourd'hui dans le monde pour faire face au changement climatique?
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la moitié de l'humanité vit dans des conditions hautement vulnérables au changement climatique, et c'est notamment les régions qui ont des contraintes pour leur développement, telles que l'Afrique, qui sont les plus vulnérables et, comme Benjamin l'a dit, qui contribuent très peu au changement climatique. Ouais. Maintenant, dans le passé quand même, nous avons subi des changements climatiques d'origine anthropique, peut-être pas dû aux gaz à effet de serre, mais dû aux particules de pollution, et ce qui avait causé des sécheresses très importantes au niveau du Sahel. Et nous avons quand même vu qu'il y a une certaine résilience des populations qui ont su s'adapter à ces changements d'une certaine manière. Alors, donc, je me dis qu'il y a quand même de l'adaptation au niveau des populations, des communautés locales qui ont quand même fait montre d'une certaine résilience.
Ouais, alors c'est intéressant parce que résilience, Benjamin Sultan l'a utilisé en disant que l'Afrique manquait de résilience, et vous dites à Aïda Diong-Niang que l'Afrique peut avoir, en tout cas la population, de la résilience. Ça va être intéressant de confronter ce point de vue. Mais j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui les menaces qui planent sur l'Afrique, justement, d'ordre climatique. Quelles sont-elles précisément aujourd'hui, Aïda Diong-Niang?
Bon, l'Afrique, comme toutes les autres régions du monde, ont subi des changements aussi bien dans le climat moyen que dans les extrêmes. Mais compte tenu de la forte vulnérabilité de l'Afrique et le manque de préparation et de moyens pour apporter des réponses adéquates, fait que, en fait, tous ces facteurs font que l'Afrique est fortement impactée par le changement climatique et a déjà subi des pertes et des dommages, aussi bien concernant l'économie, la production, l'économie, mais la production agricole de manière particulière, la santé humaine. Beaucoup de secteurs, en fait, on a déjà vu des impacts considérables dans beaucoup de secteurs.
Quelles régions sont touchées? Parce qu'évidemment, on parle là d'un continent entier, et La vulnérabilité n'est pas la même selon les pays, selon les zones concernées.
Bon, quand on regarde, en fait, toutes les régions sont vulnérables et subissent D'accord. les impacts et les effets du changement climatique de multiples façons. Quand on va à l'Afrique du Nord, peut-être c'est la chaleur excessive, les feux de brousse. Quand on va à l'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être la production agricole, la montée du niveau de la mer également en Afrique de l'Est. Donc cela dépend des régions, mais toutes les régions sont vulnérables au changement climatique d'une façon ou d'une autre.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec d'autres zones dans le monde ? Je pense par exemple peut-être en Asie, dans le Pacifique, des pays à faible revenu comme peuvent l'être plusieurs pays du continent et en même temps qui subissent comme plusieurs pays du continent qui sont en première ligne, qui subissent en premier lieu les conséquences du réchauffement climatique.
Oui, ce qui me vient plus à l'esprit, c'est les États insulaires qui subissent la montée du niveau de la mer, qui ont déjà connu des pertes et dommages, qui ont connu des limites à l'adaptation, notamment par rapport à la disponibilité des terres, par rapport à la fréquence des cyclones tropicaux les plus dévastateurs. Donc l'Asie aussi, l'Asie est un continent très vulnérable. Je pense que les pays les plus vulnérables se trouvent d'ailleurs en Asie, en Bangladesh, Pakistan, ainsi de suite. Compte tenu aussi de l'exposition au changement climatique.
Il y a des parallèles qui sont possibles pour vous entre la situation qu'on peut observer en Afrique et par exemple au Bangladesh ?
Oui, il y a des parallèles, hein, notamment dans tous les pays, comment on appelle ça, les PMA, les pays les moins avancés, les pays qui ont des contraintes de développement, il y a des parallèles. Et puis, on voit également que dans ces pays-là, des communautés essayent de mettre en place des mesures d'adaptation, mais ce sont des mesures qui sont incrémentielles et par secteur. Donc, nous ne sommes pas encore à des mesures d'adaptation transformationnelles pour plusieurs raisons.
Avant de repasser la parole à Benjamin Sultan, j'aimerais que vous développiez la résilience de la population que vous évoquiez. Comment elle se manifeste, cette résilience de la population africaine aujourd'hui face au changement climatique ?
Donc, en fait, je donnais un exemple des sécheresses passées entre les années 70 et 2000. Donc, les producteurs se sont adaptés en essayant de diversifier l'agriculture. Bon, d'autres également ont trouvé comme moyen d'adaptation la migration dans les zones urbaines. Bon, ça va créer d'autres problèmes, évidemment, ou bien carrément l'immigration. Mais la plupart du temps, quand même, on a vu des mesures d'adaptation avec la diversification, avec la gestion des stocks d'eau. Mais ce sont des mesures incrémentielles à l'échelle des communautés et des petits producteurs.
Donc, ce n'est pas suffisant. C'est une goutte d'eau, c'est le cas de le dire.
Effectivement.
Ouais. Ça se manifeste comment ? Vous avez des exemples ?
Donc, par exemple, passer de la culture de l'arachide à la culture du niébé, par exemple, ou bien passer à des variétés qui nécessitent une longue saison de pluie, à des variétés de courte saison de pluie. Ça, on le voit le plus souvent. Et puis, souvent aussi, ces producteurs sont accompagnés par le gouvernement. Mais cela nécessite également d'avoir des informations d'une année à une autre, parce que le changement climatique s'accompagne également d'une forte variabilité de la pluviométrie et des chaleurs excessives.
Benjamin Sultan, est-ce que vous diriez que l'Afrique en fait suffisamment aujourd'hui face au changement climatique ?
Effectivement, on voit des stratégies d'adaptation à l'échelle des communautés, à l'échelle locale, comme disait Aïda, avec des changements de variété, avec des populations qui perçoivent très très bien les changements de pluie, les changements de température, et qui font souvent prennent en compte les mesures adéquates en fait pour s'y adapter. Donc ça c'est très très positif. Mais en réalité on a surtout peur qu'ils soient dépassés en fait par l'ampleur des changements, parce que souvent ils sont pas forcément très très soutenus par les gouvernements, donc ils n'ont pas beaucoup les moyens en fait de mettre en place de l'adaptation vraiment transformationnelle, donc qu'ils puissent vraiment faire des réels changements. Et on pense aussi que l'ampleur en fait des changements climatiques avec la trajectoire d'émissions qu'on prend actuellement, risque finalement peut-être de dépasser les capacités d'adaptation de ces populations et puis les capacités des gouvernements à aider ces populations les plus vulnérables à s'adapter.
Parce que la lutte contre le changement climatique aujourd'hui en Afrique, c'est uniquement les initiatives citoyennes. Il n'y a pas de ligne directrice nationale, transnationale, ou encore mieux, d'harmonisation au niveau du continent?
Non, non, il existe bien sûr des plans nationaux d'adaptation, ouais, qui sont très importants, des plans de toutes les contributions nationales déterminées, donc qui mettent beaucoup de la place à l'adaptation dans les feuilles de route des pays en développement, des pays africains. Donc il y a énormément de choses sur l'adaptation. Mais le problème, en fait, c'est il y a énormément de problèmes sur la faisabilité, en fait, de ces plans, sur des obstacles qui sont technologiques, des obstacles qui sont au niveau institutionnel, au niveau culturel, au niveau financier aussi, surtout, qui font que les difficultés sont énormes, les enjeux sont énormes. Ouais. Et puis, comme a dit Aïda, en fait, la menace est multiple, en fait. On peut avoir des canicules extrêmes dans certaines régions. Parfois, les mêmes régions, quelques jours après, quelques mois après, vont subir des inondations ou des sécheresses, en fait. Donc, la difficulté, c'est à quoi s'adapter et quand. Donc, c'est extrêmement difficile.
Est-ce que ces obstacles, à Dongnyang, vous avez bon espoir qu'ils puissent être levés? Quelle direction prend-on, justement, dans l'adaptation de l'Afrique au changement climatique?
Moi, je pense que oui. Une première mesure, c'est également la planification. Bon, Benjamin l'a dit, hein, il y a des plans d'adaptation. Parfois, il y a des mesures d'adaptation, mais qui sont sectorielles et souvent sans cohérence entre les différentes mesures pour les différents secteurs. Ouais. Moi, je pense qu'il faut apporter plus de cohérence au niveau des gouvernements et également améliorer. Là également, peut-être que c'est de notre côté aussi qu'il faut le faire, ceux qui travaillent dans le changement climatique, une plus grande sensibilisation, parce que on note qu'il y a quand même un manque de littératie climatique, pas seulement pour les communautés, et souvent pas pour les communautés, mais pour ceux qui nous gouvernent. Et il y a aussi un manque d'engagement politique à la mesure des urgences de l'adaptation. On note également que les travaux de recherche sont limités, de même les conditions pour tout ce qui concerne les services climatiques et les systèmes d'alerte précoce qui sont fournis par les services météorologiques. Ouais. Et on peut noter également le manque de données et le déclin des systèmes d'observation et de la chaîne de valeur des données climatiques dû au conflit, au manque de financement, aussi bon, la difficulté d'avoir accès à des données non seulement climatique, mais aussi des données de vulnérabilité et d'impact. Et aussi un financement des services. Et bon, il y a beaucoup d'obstacles qu'on peut lever et qui sont là, qu'on peut lever.
Il y a beaucoup de manquements, évidemment, qui sont financiers et on va en parler, mais vous évoquiez le manque de cohérence entre gouvernements, entre États africains. Comment on peut parvenir à cette cohérence? D'où elle peut venir? Quel peut être le guide qui donnera la ligne directrice de l'Afrique en matière d'adaptation au changement climatique? Est-ce que ça doit venir des COP, comme la COP 29 qui s'est ouverte aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan? Sous la houlette de qui est-ce que cette politique d'adaptation au changement climatique peut-elle se dérouler?
C'est vrai que je parlais plus de manque de cohérence au niveau d'un État, mais je pense que ça peut venir de la production de connaissances. Parce qu'il faut en fait améliorer la production de connaissances, aussi bien les connaissances scientifiques et prendre en compte aussi les connaissances locales avant de mettre en place des mesures d'adaptation. Parce que ce qu'on voit, parfois on peut venir juste essayer de trouver une option urgente pour faire face à un problème urgemment, alors qu'on peut en créer d'autres, donc ça constitue de la maladaptation. Moi je pense que travailler de manière cohérente avec tous les secteurs, inclure les connaissances scientifiques et locales, mais évidemment, ça demande un peu plus de temps et de coordination.
Benjamin Sultan, vous-même, vous avez évoqué ces obstacles qui se dressent face à l'Afrique dans sa politique d'adaptation au changement climatique, mais on a compris en les développant avec Aïda Dongnyang qu'ils sont nombreux, ces obstacles, qui ne sont pas levés aujourd'hui. On ne peut pas augurer de demain, est-ce qu'ils seront levés ou pas. Est-ce que face à ça, vous diriez que l'Afrique aujourd'hui, si rien ne change, est condamnée à subir les conséquences du changement climatique, et comment ça peut se manifester pour que nos auditeurs comprennent l'enjeu?
Effectivement, il y a une menace qui est réelle. Hein. On a des preuves qui s'accumulent aujourd'hui sur la dangerosité du climat en Afrique. et des preuves aussi sur le rôle des activités anthropiques, du réchauffement climatique dans ces événements dramatiques. On peut citer ce qui s'est passé en Libye en 2022, avec près de 11 000 morts, au Tchad, au Nigeria cette année, et puis l'année en 2022 également. Et puis des canicules qui étaient meurtrières en Afrique du Nord également. Et donc c'est souvent des phénomènes qui sont pourtant des phénomènes naturels qui vont s'amplifier avec le réchauffement climatique. Et ça, c'est... Il y a un rapport entier, en fait, il y a un chapitre entier dans le dernier rapport du GIEC qui est consacré à l'Afrique et qui fait l'énumération de toutes ces preuves du rôle du changement climatique et du fait que ça risque de s'intensifier dans le futur, et exposant donc l'Afrique à l'aggravation des sécheresses, comme en Afrique du Sud par exemple, ou en Afrique du Nord, à également des cyclones tropicaux plus intenses, à l'élévation du niveau de la mer. Et donc ça menace gravement les ressources en eau de l'Afrique, son économie, ses infrastructures, la sécurité alimentaire, la santé, les écosystèmes. Donc il y a une menace qui est réelle, qu'on observe déjà aujourd'hui et qui risque de s'amplifier si on ne fait rien à la fois pour s'adapter et à la fois pour atténuer aussi le réchauffement climatique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
L'Afrique peut-elle s'adapter au changement climatique? C'est la question qu'on pose ce soir, alors que s'est ouverte ce lundi la COP29, la 29e conférence de l'ONU sur le climat. Elle s'est ouverte à Bakou, en Azerbaïdjan. Mais deux invités en ligne avec nous, Benjamin Sultan, climatologue que l'entendait, qui est directeur de recherche à l'Institut pour le développement, auteur, contributeur également du 6e rapport du GIEC, Aïda Diong-Nyang, qui est climatologue, directrice de la météorologie à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, vice-présidente du groupe de travail 1 au GIEC. On a posé les enjeux, on a dit avec Benjamin Sultan, ce à quoi s'exposait l'Afrique dans les années qui viennent si rien ou peu de choses, trop peu de choses ne changeraient. Et on a évoqué aussi les obstacles qui sont à lever pour que l'Afrique soit capable de s'adapter à ce changement climatique. Elle qui, on l'a dit, est en première ligne, alors qu'elle contribue à moins de 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aïda Diong-Nyang, est-ce que la clé est ce qui fait que l'Afrique pourra répondre au changement climatique et s'y adapter sans les conséquences désastreuses qu'on a évoquées? Est-ce que la clé, c'est le financement?
Donc, le financement est important et fait partie des mesures qui peuvent accompagner l'Afrique, mais également le transfert de technologies. Mais il faut noter qu'en fait, l'adaptation se fait au niveau local. Même s'il y a des transferts de technologies, il faut les customiser à l'échelle locale. Et je pense que le développement des connaissances, c'est un levier important. Et je pense que je vais revenir aussi sur ce que Benjamin a dit par rapport à la nécessité de baisser les émissions, parce que l'adaptation de l'Afrique dépend aussi de la volonté des pays, notamment les plus émetteurs, à réduire les émissions, parce que nous approchons les limites de l'adaptation sur plusieurs domaines. Et comme on l'a dit, l'Afrique est très vulnérable au changement climatique et que pour chaque mesure supplémentaire de réchauffement planétaire, les limites de l'adaptation et les pertes et préjudices deviendront de plus en plus difficiles à éviter. Donc, l'atténuation est un levier également important pour l'adaptation.
Mais à vous entendre, on a l'impression que la prise de conscience, elle n'est toujours pas là. Malgré, encore une fois, la sonnette d'alarme, je pense que le continent africain est conscient, semble. Peut-être que vous allez me dire que les dirigeants ne le sont pas, mais semblent conscients des enjeux. Ils sont régulièrement évoqués.
Oui, il y a de plus en plus une prise de conscience sur le changement climatique, ses effets, ses impacts. Maintenant, il faut également les moyens et la volonté politique. Et je pense que pour cela aussi, il faut travailler sur la littératie climatique à tous les niveaux. Donc, c'est une inertie qui est là, qu'on ne note pas seulement en Afrique, qui est notée également dans beaucoup de régions du monde.
Benjamin Sultan, on parle beaucoup de l'Afrique, en tout cas au sens intérieur du terme. On ne dit pas que finalement la solution elle vient de l'extérieur. Est-ce que c'est le cas selon vous? Parce qu'on évalue les besoins à 2 400 milliards de dollars par an d'ici à 2030 pour les pays en développement. dont font partie beaucoup de pays africains. La solution, elle ne vient pas de l'extérieur pour que l'Afrique s'adapte au changement climatique? Alors, c'était Benjamin Sultan que je voulais entendre sur le sujet.
Non, la solution ne devrait pas uniquement venir de l'extérieur, mais je pense que des échanges sont importants, que ce soit entre l'Afrique et d'autres régions. Je pense que d'autres régions également peuvent apprendre de l'Afrique en ce qui concerne l'adaptation. Donc, également, on peut mettre à l'échelle des solutions qui ont donné leurs preuves ailleurs. Mais toujours, les solutions doivent être contextualisées et également avoir l'adhésion des populations.
Ouais.
Donc, en termes d'adaptation, il faudra également une large concertation au niveau des populations locales.
Ok, donc ce que vous me dites, Aïda Dyongnyang, c'est que même si ces 2400 milliards de dollars par an qui sont nécessaires aux pays en développement étaient versés, ce ne serait pas la solution obligatoirement à l'adaptation de l'Afrique au changement climatique.
Donc, le financement est un levier majeur,
ouais.
Mais également la concertation, la gouvernance sont des leviers aussi importants pour accompagner le financement, pour mettre en œuvre les mesures d'adaptation transformationnelle.
Benjamin Sultan, est-ce que vous partagez ces interrogations que j'évoquais avec Aïda Dyongnyang sur une prise de conscience finalement qui n'est peut-être pas encore complètement là sur le continent africain, sur les ravages du changement climatique et les conséquences sur le continent?
Sur la prise de conscience, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de prise de conscience en Afrique. Je pense que les Africains sont conscients depuis très longtemps en fait, de la menace qui pèse du réchauffement climatique.
Et un décalage entre, en alors fait, dans ce cas-là, peut-être un décalage entre la population et les dirigeants.
Après, c'est toutes les problèmes techniques, les problèmes financiers que j'évoquais, les problèmes institutionnels de mettre en œuvre l'adaptation qui fait qu'il y a des difficultés qui sont énormes. En fait, c'est un défi qui est très important et c'est un défi qui se cumule avec les autres défis que connaît l'Afrique, les défis qui peuvent être au niveau politique, au niveau de la sécurité, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'insécurité alimentaire. Et donc les dirigeants vont avoir à gérer en fait tous ces problèmes-là et essayer de mettre des priorités par rapport à tout ça. Et je pense que c'est la difficulté, c'est la multiplicité en fait des combats que doivent mener ces gouvernements.
Il faut parvenir à une bonne gouvernance pour parvenir à une adaptation de l'Afrique au changement climatique, c'est ça que vous nous dites ?
Bah, disons qu'il y a plusieurs feux à éteindre en même temps, dont le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique va aggraver en fait un certain nombre de problèmes que peuvent avoir des gouvernements en Afrique, que peuvent avoir certaines catégories de population. Donc toute la difficulté en fait, c'est de pouvoir faire face à une multiplicité de menaces. Mais je pense néanmoins que la prise de conscience est là. La difficulté est de mettre en œuvre une action à grande échelle et pas une action juste incrémentielle à essayer de répondre à chaque événement extrême qui va tomber une année, une autre année.
Et ça fait écho aux pluies diluviennes qui sont abattues sur le Sahel et le Sahara en août-septembre, et énième illustration du changement climatique qui a touché le continent. Aïda Dyongnyang, dans ce contexte, qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de la COP29 qui s'est ouverte aujourd'hui et dont l'enjeu principal, je le disais en amont de cette émission, c'est de fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays en développement. Donc ça touche clairement notre débat ce soir.
Effectivement, je pense que la question du financement de l'adaptation et de l'atténuation en Afrique, c'est un point important de l'agenda des pays africains, mais également les pertes et dommages. On a vu que les pertes et dommages participent au débat des négociations depuis l'année dernière et que les mécanismes de mise en œuvre des pertes et dommages également seront certainement discutés amplement à la COP. Donc l'Afrique peut attendre de la COP qu'il y ait plus de financement, je l'espère, plus aussi de coopération internationale, dont le transfert de technologies.
Mais le financement, il est là, il y a des promesses qui ont été faites. La question, c'est comment, encore une fois, les promesses peuvent être suivies des faits, voilà.
Oui, l'opérationnalisation de ces promesses, l'opérationnalisation des fonds pour les pertes et dommages, Donc, c'est des questions de discussion importantes. Et toujours aussi la baisse des émissions, parce que à mesure que les émissions augmentent, le réchauffement augmente et les événements extrêmes, et ouais. L'Afrique devient de plus en plus vulnérable.
Mais encore une fois, on disait que l'Afrique, elle contribue à même pas 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est toute l'injustice climatique.
Ouais, surtout que si on regarde les émissions par tête d'habitant pour les pays les moins avancés, hein, souvent en Afrique, donc c'est 4 fois moins que les émissions moyennes à l'échelle mondiale.
Benjamin Sultan, notre débat commence à toucher à sa fin. Est-ce que vous êtes, pour répondre à la question, est-ce que l'Afrique peut s'adapter au changement climatique, est-ce que vous êtes optimiste ?
Je pense que les solutions existent. Il y a des solutions à la fois sur de l'adaptation incrémentielle, donc avec des alertes précoces. Donc la plupart des événements extrêmes sont bien prévus en fait par les systèmes météo dont on fait partie à Idadian. Donc il y a les moyens en fait d'anticiper ces événements extrêmes. Il y a également aussi des techniques d'adaptation transformationnelle comme modifier l'adaptation, le plan d'adaptation des villes, essayer de réduire l'imperméabilisation des sols, de mieux dimensionner les ouvrages au climat futur. Dans les zones rurales, ça va être la pratique de l'agroforesterie, l'agroécologie qui ont montré des succès face à des changements climatiques. Donc les solutions, je pense qu'elles existent. Mais c'est vrai que la question, c'est de pouvoir les mettre en œuvre à grande échelle. Donc à la fois la question des financements, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a des promesses qui ont été faites à la COP29, mais souvent elles sont... Déjà, il faut qu'elles soient honorées.
Les promesses, elles ont été faites à la COP28, puisque la COP29, elle s'est ouverte aujourd'hui.
Ouais. Oui, tout à fait, mais elles sont discutées aujourd'hui. Ouais. À la COP29, il faut qu'elles soient honorées, elles ne le sont pas tout le temps. Ouais. Et puis, et l'ampleur aussi de financement n'a rien à voir finalement avec les besoins. Par exemple, on parle de 100 milliards, il y a une promesse de 100 milliards de dollars par an pour soutenir l'adaptation et l'atténuation.
Ça, c'était issu de la COP, de la COP19, ouais.
Ça, c'était issu de la COP19. Ça a mis presque 15 ans à être une promesse qui a mis très très longtemps à pouvoir être honorée. Et pourtant, les chiffres aujourd'hui, c'est... Par rapport aux dernières publications, il faudrait plutôt multiplier ce chiffre-là par 20 ou voire par 30 pour honorer les objectifs mondiaux en matière de climat.
Bon, pour répondre à la question, oui, l'Afrique, je pense, si je dois synthétiser ce que vous m'avez dit ce soir, l'Afrique peut s'adapter au changement climatique, mais l'évolution est lente, finalement, à l'image des actions écologiques. Cela dépend des gouvernances, notamment. Et la question du financement, elle est importante, mais elle n'est pas l'unique solution, finalement, pour permettre au continent de s'adapter au changement climatique. Merci beaucoup à vous deux. Benjamin Sultan, climatologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, auteur, contributeur du 6e rapport du GIEC, spécialiste de l'Afrique. Merci Aïda Diong-Nyang, climatologue, directrice de la météorologie à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, vice-présidente du groupe de travail 1 au GIEC. Merci à Florence Pons, qui était à la préparation de ce débat, Claude Battista, à sa réalisation. Coup d'œil à notre pendule ce soir, 18h58 ici à Paris, c'est-à-dire dans un peu plus d'une heure, dans un peu plus d'une minute. On va pas aller si vite, ce sera l'heure du grand journal du soir avec Adrien Delgrange, et c'est la COP29 qui sera le grand titre de ce grand journal du soir. Et puis après votre tranche d'info, dans une demi-heure, ce sera Afrique Soir. Bonsoir Fabien Albert.
Bonsoir Romain.
Quel programme ce soir ?
Alors à venir dans un peu plus de 30 minutes, nous serons à Port-Louis, capitale de l'île Maurice. Le Premier ministre sortant a reconnu sa défaite en début d'après-midi. Hier, les Mauriciennes et Mauriciens votaient lors de législatives anticipées. Nous serons donc sur place dans 30 minutes en Côte d'Ivoire, moins d'un an avant la présidentielle. Chaque camp avance ses pions. Hier, l'ancien président Laurent Gbagbo a renoué les liens avec la France en rencontrant l'ambassadeur français à Abidjan. Des liens rompu après la crise électorale de 2010-2011. Et puis nous évoquerons également les suites du procès Zogo au Cameroun, la COP29 dans toutes les têtes aussi sur le continent. Les attentes de la société civile africaine seront nombreuses, vous l'entendrez. Et puis tout comme les attentes du sélectionneur des léopards congolais, Sébastien De Sabre, le technicien, vise le titre, rien que ça, l'an prochain au Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations.
Eh bien merci Fabien Albert, on vous retrouve dans 30 minutes donc sur RFI. Pour l'instant, restez à l'écoute.